Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Patience Ngalula.
D'abord les titres de ce journal. La session ordinaire de l'examen d'État édition 2023-2024 débute dans quelques instants sur l'ensemble du territoire national. Plus de 900 000 candidats à ces épreuves seront répartis dans 2800 centres. Selon l'inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale, ces chiffres sont légèrement à la baisse par rapport à l'année passée où le nombre des candidats dépassait 1 million. 4 personnes tuées dans une fusillade dans le territoire des Fizi au sud Kivu dans la nuit du samedi dernier. L'administrateur de ce territoire qui livre l'information cite parmi les victimes les Mwami de Babungwe et les commandants des opérations sud. Le présumé auteur du crime est un militaire subalterne de la brigade FRDC déployée dans la région, affirme la même source sans préciser le mobile de cette obstination sur ses supérieurs. 63 km de routes périphériques autour de la ville province de Kinshasa seront construits dans un délai de 2 ans et demi à dater de samedi 22 juin. Le chef de l'État a lancé samedi les travaux depuis Mitendi devant une foule immense. Nous parlons du déroulement de ces travaux dans ce journal avec Eric Ngiloma Kombela, chef de projet à la CGT, Agence congolaise des grands travaux. Bonjour. Examen d'État 2024. La session ordinaire commence aujourd'hui. C'est pour 4 jours. Cette année, on compte plus de 962 000 candidats inscrits et 2 800 centres. L'inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté appelle les candidats à être confiants. L'examen est tiré des matières vues dans leur cycle d'études. Odia Musungai est jointe au téléphone par Babel Mpongo Masimango.
Les effectifs sont légèrement à la baisse par rapport à l'année passée. Nous sommes à plus ou moins à 962 000 candidats, alors que l'année passée, nous avions des inscrits de l'ordre de 1 100 000. Les filles, il y a augmentation. Nous sommes déjà à plus ou moins 47-48% des filles qui participent au pays. Nous avons plus de 2000 centres. Nous en avons également hors frontières. Vous avez à Angola, c'est-à-dire Luanda et Cabinda, Bujumbura, Tanzanie. Les mesures contre la fraude, contre la tricherie, nous avons renforcé. Il faudrait que les opérateurs commis à cette tâche-là respectent les instructions. Je demande aux candidats, aux élèves de passer leurs épreuves dans la sérénité la plus totale. Pas de panique, il n'y a rien de mystérieux dans les épreuves de l'examen d'État. Il y a les matières qui sont contenues dans les programmes nationaux d'enseignement. Que les enfants s'appliquent comme toujours. Ne jetez pas un coup d'œil sur le cahier du thème du voisin. Vous n'avez pas la même épreuve nécessairement. Après l'épreuve, je demanderai également aux enfants de rentrer calmement, sereinement à la maison.
De même à Beni, au nord Kivu, à quelques heures de la session ordinaire de l'examen d'État 2024, les élèves finalistes déplacés vivant dans la ville disent être confiants. Malgré l'insécurité dans leur milieu d'origine, ils affirment s'être bien préparés pour ces épreuves terminales des études secondaires. Les autorités scolaires rassurent quant à l'accompagnement de ces élèves. Reportage de Grévis Salumu.
Shafiko Asula est élève finaliste dans l'option de construction au complexe scolaire Basai Vusai, situé dans la commune de Mulekera, dans la ville de Beni. C'est depuis mars dernier qu'il a fui l'insécurité dans la localité de Makumo, située à une 60 kilomètres de Beni, à la suite des attaques des rebelles ADF. Il parle de sa préparation à l'examen d'État.
Nous sommes bien préparés parce que nous sommes formés depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Nous nous préparons bien, pas d'inquiétude vraiment. Nous avons beaucoup étudié, nous avons confiance à la matière donnée par nos enseignants. Vous nous avez aussi rattrapé après notre arrivée ici à Beni.
Les autorités scolaires indiquent avoir pris le temps d'encadrer ces élèves au même pied d'égalité que leur père. Dani Kambale Mwonga, directeur des études au complexe scolaire Basai Vusai.
Nous sommes en train de les demander d'être calmes parce que le programme national est uniforme, la dispensation de matière est la même. Nous sommes en train de leur donner certaines instructions d'une manière psychologique. Ce sont nos affaires et nous avons le devoir de les encadrer comme les autres.
Le responsable de la sous-division de l'EPST Beni, Olivier Matsurolenge, indique que toutes les dispositions sont déjà prises pour la bonne passation de la session dans les 15 centres au niveau de la ville de Beni. Beni, Grévis Salumu, Radio Kapi.
Dans le territoire des Fizi, au sud Kivu, l'administrateur de territoire Sami Kalonji signale un incident malheureux qui a entraîné la mort par fusillade des 4 personnes à Mboko dans la nuit du samedi 22 juin. Parmi les victimes, notre source cite les Mwami des Babungwe et les commandants des opérations sud. Le présumé auteur du crime est un militaire subalterne de la brigade FRDC déployée dans la région. Sami Kalonji, qui livre l'information, ne précise pas les mobiles de l'acharnement de ces militaires contre ses supérieurs. On l'écoute.
C'est vers 20h30 du 22 juin 2024 qu'un homme entraîné militaire de la compagnie QG, 21e brigade sous secteur Sokola des Sud-Sud, a tiré sur son adjudant commandant nouvellement affecté à Mboko. Ce dernier est mort sur place, se retrouvant au mauvais endroit. Mwami Charles Simbi, du groupement de Babungwe Nord, accompagné de son épouse et toujours flingué de son garde du corps, a été victime collatérale de cette barbarie perpétrée par ces militaires lâches. Touché à la hanche, Mwami Simbi a été transporté et amené urgemment à l'hôpital de Nundu, situé à 3 km pour des soins. Malheureusement, tous les efforts consentis par nos médecins pour arrêter l'hémorragie n'ont pas pu donner solution. Le bilan se présente comme suit. 4 morts et 1 blessé.
En Ituri, certains humanitaires pris en otage vendredi par un groupe de miliciens de la Codeco dans les villages Gokpa, dans les secteurs de Walendu, Djati, ont été libérés samedi par leurs ravisseurs. C'est grâce au plaidoyer mené notamment par le membre de la communauté Lori et des chefs coutumiers avec l'appui des services de sécurité. Dans une déclaration à la presse ce dimanche, les notables de cette entité déplorent que ces humanitaires qui viennent en aide aux sinistrés soient pris pour cible par ces miliciens. Les porte-parole de la communauté Lori demandent aux leaders de la Codeco de respecter leurs actes d'engagement de paix et à imposer la discipline au sein de leur groupe armé. Paul Matata est joint au téléphone par Ezekiel Mouzalia.
Nous devrions tous comprendre une vérité fondamentale. Jamais les affrontements armés n'ont été profitables aux belligérants. La guerre se nourrit de vies humaines, généralement des innocents. Elle se désaltère de sang humain. Bien plus, toute tension au sein de nos communautés nous affaiblit et conforte plutôt la position de l'ennemi de la République. Ainsi, pour éviter des tueries inutiles et l'embrasement de notre espace vital, nous recommandons aux notables Fuliru et Babembe de ce qui suit. Étant donné que nous combattons un ennemi commun, que nous avons un intérêt commun à la désescalade et pour éviter la récurrence des altercations meurtrières susceptibles de déboucher sur une guerre civile, tous les Oisalens de Fuliru et autres doivent rentrer faire la résistance dans leur espace territorial, en territoire d'Uvira. C'est le prix de la paix.
30 000 déplacés de la crise de Kwamout installés dans les sites de Doumi, Mongata et Mbakana dans la commune rurale de Maluku à Kinshasa sont ciblés par un projet d'assistance humanitaire globale dénommé Lisanga. Le lancement de ce projet a eu lieu la semaine dernière au quartier Mbakana situé à environ 145 km du centre-ville de Kinshasa. Cela en présence des bénéficiaires, des autorités politico-administratives et sécuritaires locales dont les bourgmestres de Maluku. Sans oublier de représentants de 8 organisations formant un consortium de mise en œuvre avec Caritas International Belgique et Caritas Congo Asbel. Objectif, améliorer les conditions de vie et promouvoir la coexistence pacifique des communautés affectées par la crise des Kwamout. Plus de détails avec Noëlla Luzitu Kabambi.
Évalué à 3 200 000 $, le projet Lisanga cible les personnes déplacées ou retournées des familles d'accueil de la zone de santé de Kwamout et de Maluku 2. Ce projet sera mis en œuvre par un consortium de 8 organisations. Il est cofinancé par la Direction générale de la Commission européenne en charge de l'aide humanitaire, DG ECO. Il a 6 volets et cible 30 000 personnes, dont 2 000 ménages agricoles. Les bénéficiaires de leur côté ont exprimé le vœu de voir ce projet améliorer réellement leurs conditions de vie. Georgine Ngame, déplacée, est mère de 7 enfants.
Je suis très contente de ces projets, celle de voir le deux peuples Teke et Akako habiter à nouveau. Je remercie beaucoup l'Union européenne pour son aide, ainsi que Caritas Belgique et Caritas Congo, qu'ils nous donnent des semences, des aubergines, des haricots et autres pour nos champs, pour que nos enfants retrouvent une bonne santé et une bonne croissance.
Le bourgmestre de la commune de Maluku s'est dit très ému par cette aide globale qui tombe à point nommé dans son entité. Alexis Mampamundoni.
Moi, mon souhait est que les projets qui viennent pour nous appuyer continuent jusqu'à la fin de ce projet.
La représentante au pays de Caritas International Belgique en RDC, Liliane Bitong Ambassa, appelle les autres acteurs à s'engager en faveur des victimes de la crise de Kwamout.
Restons à Kinshasa. Une foule immense a assisté avec enthousiasme les samedis au lancement des travaux de construction des rocades, les routes périphériques autour de la ville de Kinshasa par le chef de l'État. Projet que nombreux ont loué et encouragé pour son exécution en émettant cependant une crainte quant au financement complet pour la finalisation des ouvrages. Côté gouvernement et de la CGT, Agence congolaise des grands travaux, l'on se veut très rassurant. Les fonds sont bel et bien disponibles. Reportage de Billy Van Lutumba.
Le site retenu pour le lancement des travaux s'est vu envahi dès le matin par plusieurs habitants du quartier Mitendi et bien d'autres venus du centre de Kinshasa, entonnant des chants à la gloire du chef de l'État et aux officiels dans la tribune. Ils saluent le projet en insistant sur son financement.
Moi, j'ai l'impression que les travaux lancés par le chef de l'État, c'est bien bon, mais il y a eu toujours des détournements par manque de suivi et les travaux restent toujours inachevés.
C'est une très très bonne idée, une excellente idée. Bon, malheureusement, depuis 4 ans, notre pays fait face à des problèmes de détournement d'argent. La peur du financement qui n'arrive pas à temps et les travaux sont abandonnés en cours de route.
Que le projet ne s'arrête pas, faute de financement, parce que nous sommes habitués à ça.
Point n'est besoin de s'inquiéter, répond Eric Nguilo, chef de projet à la CGT, que nous approchons à propos de cette préoccupation.
Nous tranquillisons la population parce que le chef de l'État a pu revisiter le contrat sino-congolais. Aujourd'hui, nous avons un budget disponible de 7 milliards. Et 7 milliards qui sont donnés année par année nous permettent exactement de ne plus nous soucier du financement.
Rappelons que le coût prévisionnel des rocades sud-est et sud-ouest est évalué à plus ou moins 240 millions de dollars et les travaux prendront 2 ans et demi.
Célébration dimanche 23 juin 2024 de la Journée internationale des veuves. À cette occasion, la ministre provinciale du genre du Haut-Katanga a appelé au respect des droits de veuves et fustigé les mauvais traitements dont sont souvent victimes les veuves. Dans ses reportages, Jean Gandou revient sur la situation que vivent certaines veuves de Lubumbashi.
Sarah, la quarantaine révolue, a perdu son mari dans un accident de voiture. Avec ses 4 enfants, elle s'est vue chassée de la maison par sa belle famille. Son péché, c'est d'avoir refusé d'être prise en mariage par le frère de son défunt mari. Et depuis, elle a trouvé du travail chez une dame de son église où elle s'occupe de la garde des enfants. Elle ne rentre chez elle que tard dans la soirée pour enfin prendre soin de ses 3 garçons. Le 4e, ne pouvant pas supporter la souffrance, a fini par gagner la rue. Chantal, elle aussi veuve de son état, grâce à la ristourne, s'est lancée dans l'exercice du petit commerce informel, ce qui lui permet de nourrir ses 2 enfants. Elle dit être abandonnée par sa belle famille après le décès de son mari. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des veuves, Gisèle Ngungwa, la ministre provinciale du genre dans le Haut-Katanga, a au cours de son adresse à la population indiqué que
« Cette commémoration constitue une grande opportunité qui s'offre au monde entier afin de défendre le droit de veuves contre les traitements inhumains qu'elles subissent tant par les hommes que pire par les autres femmes.
Et pour y faire face,
je lance donc un appel pathétique à toute la communauté à venir en aide aux veuves pour qu'elles occupent une place respectée dans notre société et pour qu'elles aient accès à la protection juridique et sociale de sorte qu'elles puissent prendre soin de leurs enfants.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Sud Kivu, parlons à présent du conflit entre les tribus Babembe et Bafuliro dans les territoires de Fizi. Les notables de la tribu Babembe de Fizi en mutualité à Kinshasa appellent à l'apaisement entre les deux communautés. Ils l'ont dit hier dimanche au cours de la rencontre qu'ils ont organisée dans la salle Gladness à Kitambo Magasin. La déclaration de paix a été lue par M. Yoram Eshiba Wisanganino, président de la mutualité Babembe, dit Emo Yambondo à Kinshasa. Suivez.
Nous devrions tous comprendre une vérité fondamentale. Jamais les affrontements armés n'ont été profitables aux belligérants. La guerre se nourrit de vies humaines, généralement des innocents. Elle se désaltère de sang humain. Bien plus, toute tension au sein de nos communautés nous affaiblit et conforte plutôt la position de l'ennemi de la République. Ainsi, pour éviter des tueries inutiles et l'embrasement de notre espace vital, nous recommandons aux notables Fuliro et Babembe de ce qui suit. Étant donné que nous combattons un ennemi commun, que nous avons un intérêt commun à la désescalade et pour éviter la récurrence des altercations meurtrières susceptibles de déboucher sur une guerre civile, tous les Oiseleins de Fuliro et autres doivent rentrer faire la résistance dans leur espace territorial, en territoire d'Ouvira. C'est le prix de la paix.
Actualité internationale.
Les bras de fer entre les Bénins et les Niger se poursuivent avec peut-être un moyen d'apaisement grâce aux bons offices des deux anciens chefs d'État béninois. En effet, les services des communications des Nicéphore Soglo et des Boni Yayi annoncent que les deux anciens présidents se rendent à Niamey ce lundi 24 juin pour tenter d'apaiser les choses entre les deux pays.
L'invité.
63 kilomètres de routes périphériques autour de la ville-province de Kinshasa seront construits dans un délai de 2 ans et demi à dater de samedi 22 juin. Le chef de l'État a lancé samedi les travaux depuis Mitendi devant une foule immense. Nous parlons du déroulement de ces travaux avec Eric Ngilo Makombela, chef de projet à la CGT, Agence congolaise des grands travaux. Il s'entretient avec Billy Ivan Lutumba.
Eric Ngilo Makombela, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, le chef de l'État lance les travaux de construction de rocade. En quoi ça consiste?
Les travaux de rocade consistent à développer une route périphérique sur 360 degrés, donc sur tout le contour de la ville de Kinshasa. Et les rocades sont les sous-projets de ce grand projet. Et il y en a 4, donc les rocades sud et nord, chaque fois sud-est, sud-ouest, nord-est et nord-ouest.
Et d'où partiront ces routes pour connecter la ville de Kinshasa?
Alors aujourd'hui, nous sommes présents ici parce que le chef de l'État, son Excellence Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo, lance les travaux en ce qui concerne les rocades sud, donc la rocade sud-ouest et sud-est. La rocade sud-ouest part exactement de Mbudi terminus, prend l'Outendele, passe par Ngombi, par Ngoudiabaka et ressort ici à Mitendi où nous sommes aujourd'hui pour l'événement. Et la rocade sud-est partira de ce point toujours, ici à Mitendi, va vers l'aéroport, mais en passant par Kimwenza et par Njili Brasserie. Voilà les deux rocades sud.
Et qu'en est-il de la partie nord? Parce qu'on n'avait parlé que du sud.
La partie nord va venir tout à fait rapidement après la finalisation de la partie sud, parce que la partie nord va maintenant embrancher les deux sud de manière à faire une boucle complète. La partie nord-est va prendre l'aéroport, parce que c'est le point de sortie de la sud-est, va aller passer dans les marécages et pas sur Lumumba. Ça donne une alternative sur Lumumba. Nous passons dans les marécages du fleuve jusqu'au niveau de la cité du fleuve et nous rentrons dans la ville à travers GB et nous venons ressortir au niveau du rond-point Safrikas. Et tout cela en viaduc, donc en surélevé. Ce n'est pas au sol. Donc ça permet à ce qu'il y ait une fluidité des trafics au-dessus sans gêne. Et à partir de ça, nous avons aussi la partie nord-ouest qui va partir de Safrikas et qui va aller descendre, revenir sur Ngoudiabaka en longeant le fleuve, donc en ne prenant pas tourisme, en longeant le fleuve, donc il sera au-dessus, au niveau du fleuve, et ressortir de ce côté-là, ça permet une fluidité. Et à la fin, nous avons un 360 degrés, boucle complète sur la ville de Kinshasa.
Et tout cela, c'est combien de kilomètres? Et les fonds sont déjà disponibles pour exécuter ces travaux?
Alors, la totalité des rocades donne un kilométrage de 110. Les suds donnent un kilométrage de 63. Et donc, les fonds, concernant les fonds, nous le savons tous, le chef de l'État, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, a revisité il n'y a pas longtemps le programme sino-congolais. Et aujourd'hui, nous avons un budget disponible grâce à cette revisitation de près de 7 milliards, ce qui est beaucoup d'argent dans les infrastructures. Et donc aujourd'hui, nous pouvons être tranquilles et tranquilliser toute la population congolaise. Nous avons assez de moyens pour finaliser ces travaux dans le délai de 2 ans et demi qui sont fixés.
Toutes ces routes-là vont passer par des endroits où habitent certaines populations. Qu'en est-il?
Alors, naturellement, on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Le projet d'infrastructure, il est un grand projet structurant avec 2x2 voies, donc sur une emprise de 20 mètres, alors qu'aujourd'hui, nous avons des voies sur emprise de 7 mètres, dont nous avons beaucoup d'espace à exproprier. Et donc, nous avons une commission qui est mise en place pour identifier tous les riverains qui sont impactés par le projet. les identifier et aussi les indemniser à juste titre, de manière à ce que le projet ne les appauvrisse pas, mais bien au contraire qu'ils en profitent, comme tous les Congolais, tous les Kinois en particulier, de ce projet qui reste un projet héritage du chef de l'État.
Et à combien évaluer tous les coûts de ces travaux pour du moins la partie sud-est et sud-ouest?
Alors la partie sud-est, dans un coût global, avec les expropriations compris, avec les terrassements, la gestion des érosions, nous parlons d'un ordre de 240 millions de dollars.
Et ça va prendre combien de temps?
Il est prévu en globalité un délai, une durée de travaux de l'ordre de 30 mois. 30 mois qui représentent à peu près 2 ans et demi. Donc ce n'est plus un projet qui est projeté, mais plutôt des travaux qui commencent aujourd'hui, après le coup de pète que le chef de l'État va faire aujourd'hui à travers l'engin d'exécution de travaux.
Eric Nguilo Makombela, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette session de Vos Nouvelles. Billy Landry Beto a assuré sa mise en onde sous la supervision et coordination d'Alain Rung Mouchinge. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous de votre sympathique attention.